VOA Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington.
Bonsoir à tous et bienvenue dans Le Monde Aujourd'hui, édition du lundi 25 janvier 2021. John Linden à la présentation. Tout d'abord, les titres. Au Mali, une forte délégation du gouvernement des transitions effectue une visite à Kidal, fief des anciens rebelles Touareg, dans le nord du pays. En Ouganda, la justice ordonne à l'armée de mettre fin à l'assignation à résidence de Bobi Wine, mais l'armée ougandaise fait la sourde oreille. Au Mozambique, le cyclone Héloïse a fait au moins 6 morts et des milliers de personnes sans abri. Ici aux États-Unis, la Chambre des représentants va formellement remettre aujourd'hui l'acte d'accusation de Donald Trump au Sénat. Le procès ne commence que le 9 février. Également dans cette édition, l'économie et les sports, mais tout d'abord, le journal. Une fois encore, bonsoir au Mali. Une forte délégation ministérielle est arrivée à Kidal, fief des anciens rebelles Touareg. C'est une première depuis le coup d'État. La dernière visite de responsables gouvernementaux à Kidal remonte à février dernier avec Boubou Cissé, le premier ministre à l'époque. On fait le point avec notre correspondant à Bamako, Kassim Traoré.
C'est aux environs de 13h que la délégation gouvernementale est arrivée à Kidal ce lundi pour une visite de 48 heures. C'est la première depuis le coup d'État qu'une délégation ministérielle se rend à Kidal, bastion de la coordination des mouvements de l'Azawad CMA, principale coalition d'anciens rebelles indépendants ayant signé l'accord pour la paix d'Alger 2015. Cet accord dont la mise en place peine à être appliquée devrait être discuté au cours d'une réunion de son comité de suivi CSA. Cette réunion était prévue initialement à Kidal le mardi prochain, mais la présidence algérienne a demandé un report de cette réunion qui devrait être la première du CSA à se tenir à Kidal. Le comité de suivi de l'accord est censé se réunir tous les mois avec les acteurs de l'accord et les partenaires. Cela pour faire le point d'étape. Dans les faits, ces réunions sont plus éloignées. En tenir une à Kidal plutôt qu'à Bamako porterait sur un point symbolique lourd. Malgré tout, les ministres ont fait les déplacements pour faire avancer le processus de paix selon un membre de la délégation, parmi laquelle figurent plusieurs ministères régaliens tenus par les militaires et un autre tenu par les ex-rebelles. Bamako, Kassim Traoré, VOA Afrique.
Toujours à propos du Mali, un gendarme a été tué lundi dans l'attaque d'un poste de contrôle par des hommes armés à Goumdam, dans le nord du pays. Un proie aux violences djihadistes a-t-on appris de sources militaires. 6 hommes armés à bord d'un véhicule Toyota Cruiser ont ouvert le feu sur des éléments de la gendarmerie au checkpoint à l'entrée de la ville de Goumdam, sur la route menant à Tombouctou, a indiqué une source sécuritaire. Après quelques échanges de tirs, les assaillants ont disparu, dit la même source qui fait état d'un gendarme tué. En Ouganda, la justice a ordonné ce lundi aux forces armées de mettre fin à l'assignation à résidence de l'opposant Bobi Wine. Le domicile du candidat malheureux à l'élection présidentielle du 14 janvier est encerclé depuis une dizaine de jours. Les détails avec Mouhamadou Oumfa.
La restriction de déplacement continue et indéfinie du pétitionnaire dans sa maison est illégale et son droit à la liberté a été entravé, a déclaré le juge Michael Elubu de la Haute Cour de justice à Kampala. Ces restrictions étant considérées comme illégales, nous ordonnons qu'elles soient levées, a-t-il ajouté. Bobi Wine a confirmé cette décision sur son compte Twitter, tout en dénonçant le maintien des forces armées devant sa maison malgré cette décision. L'opposant ne se fait d'ailleurs pas beaucoup d'illusions et peu importe ce que le tribunal dit, je sais que les militaires vont continuer à se comporter comme ils le font, a-t-il dit dans une interview à la VOA. Candidat à la présidentielle du 14 janvier, Bobi Wine dénonce des fraudes et refuse de reconnaître la réélection du président sortant Yoweri Museveni. Il est bloqué dans sa résidence près de Kampala par des soldats et des policiers lourdement armés. La semaine dernière, l'ambassadrice des États-Unis en Ouganda a été empêchée de lui rendre visite.
Mohamed Saïd Abdelkani, 50 ans, commandant de l'ex-Seleka en Centrafrique, a été transféré hier par les autorités de Bangui à la Cour pénale internationale, devant laquelle il doit répondre d'accusations. Selon le tribunal, Mohamed Saïd Abdelkani est accusé, entre autres, des crimes contre l'humanité, d'emprisonnement, de torture et des crimes de guerre. La Côte d'Ivoire a rendu lundi hommage à ses 4 casques bleus tués au début du mois au Mali. Les premiers Ivoiriens tués en opération extérieure en présence du président Alassane Ouattara et du premier ministre Ahmed Bakayoko. Les 4 soldats sont morts dans l'explosion d'une mine artisanale entre Douenza et Tombouctou dans le nord du Mali. Vendredi, le premier ministre a remis une enveloppe de 15 millions de francs CFA à chacune des 4 familles de victimes. Au Mozambique, le passage du cyclone Héloïse a fait au moins 6 morts et des milliers de personnes sont sans foyer dans une région déjà dévastée en 2019 par les cyclones Idai et Kenneth. Les équipes de secours sont sur le terrain pour aider les populations. La dépression se déplace vers l'Afrique du Sud. Nathalie Barge.
Les inondations touchent durement les bidonvilles de la ville portuaire de Beira. Près de 7000 personnes ont été déplacées et plus de 5000 maisons ont été détruites ou inondées, a déclaré l'ONU, estimant à 176 000 le nombre de personnes gravement touchées. Les fortes pluies ont provoqué des inondations, des coulées de boue et la destruction d'infrastructures dans plusieurs provinces. 142 000 hectares de terres agricoles ont été détruits, ainsi que 26 centres de santé et 76 salles de classe. Le cyclone a touché terre dans la nuit de vendredi à samedi dans la zone côtière du centre du pays, avec des pluies torrentielles et des rafales de vent de 150 km/h. Le Mozambique a été frappé par les cyclones Idai et Kenneth en 2019, qui avaient fait plus de 700 morts et des millions de sinistrés.
VOA Afrique, à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Ici aux États-Unis, les démocrates remettent aujourd'hui l'acte d'accusation de Donald Trump au Sénat pour l'ouverture formelle d'un deuxième procès de Donald Trump en février. Abdourahmane Dia.
L'ouverture formelle de ce procès sera marquée lundi soir par une cérémonie solennelle vers 19h heure de Washington. Les procureurs démocrates de la Chambre vont traverser les couloirs qui les séparent du Sénat pour aller présenter l'acte d'accusation du 45e président des États-Unis. Donald Trump est accusé par la Chambre d'avoir incité ses partisans à lancer l'assaut du Capitole le 6 janvier, alors que les parlementaires devaient certifier la victoire de Joe Biden à la présidentielle. Donald Trump est devenu le premier président américain à avoir été mis en accusation 2 fois. Il va devenir aussi le premier à subir un procès après avoir quitté ses fonctions. Après la transmission de l'acte d'accusation, les sénateurs qui feront office de juré vont prêter serment mardi. Le procès en soi ne commencera que le 9 février. Une condamnation au Sénat paraît improbable. Plusieurs sénateurs républicains ont publiquement critiqué ce procès.
Ici aux États-Unis, le président Joe Biden devrait réimposer ce lundi une interdiction d'entrée dans le pays à la plupart des citoyens non-américains qui se sont rendus en Grande-Bretagne, au Brésil, en Inde et dans une grande partie de l'Europe. C'est ce qu'a fait savoir un responsable de la Maison-Blanche. Il étendra également cette interdiction aux voyageurs qui se sont récemment rendus en Afrique du Sud. Joe Biden a annulé lundi la décision controversée de Donald Trump d'interdire aux personnes transgenres de servir dans l'armée si elles avaient besoin d'un traitement médical. En présence du ministre de la Défense Lloyd Austin et du chef d'état-major, le général Mark Milley, le président américain a signé un décret selon lequel tous les Américains qualifiés pour servir dans les forces armées devraient pouvoir le faire, a indiqué la Maison-Blanche dans un communiqué. La Cour suprême des États-Unis a ordonné lundi de refermer les procédures judiciaires engagées contre Donald Trump au nom d'une clause de la Constitution qui interdit à un président d'accepter des revenus d'origine étrangère. Les plaignants estimaient que des délégations étrangères privilégiaient le Trump International Hotel près de la Maison-Blanche dans l'espoir de s'attirer les bonnes grâces du président. En France, l'Institut Pasteur a annoncé lundi qu'il arrêtait le développement de son principal projet de vaccin contre le COVID-19, car les premiers essais ont montré qu'ils étaient moins efficaces qu'espéré. Un autre acteur français, le laboratoire Sanofi, avait annoncé en décembre que son vaccin avait pris du retard et ne serait prêt que fin 2021. Le Forum économique mondial qui abandonne cette année les neiges de Davos au profit d'un format complètement virtuel s'est ouvert ce lundi avec le discours du président chinois Xi Jinping. Les autres débats du sommet de Davos devraient tourner autour de la restauration de la croissance économique ralentie par la pandémie de COVID-19. Voilà pour le journal. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique et voafrique.com. L'actualité économique en Afrique, on en parle dans la Minute Éco qui vous est présentée ce soir par Nanit Talani.
En Côte d'Ivoire, Endeavour Mining a cédé ses 85% d'intérêt dans la mine d'or Agbaou à la société Allied Gold pour 80 millions de dollars. Selon l'agence Ecofin, Allied associera Agbaou et sa seconde mine d'or ivoirienne de Bonikro pour créer un complexe aurifère capable de produire plus de 285 000 onces d'or par an. Avec sa mine d'or Sadoula au Mali, Allied Gold possède désormais 3 mines d'or en Afrique de l'Ouest. Les 16 pays membres de la CEDEAO ont décidé d'harmoniser les prix des tests PCR pour détecter le COVID-19. Ils vont coûter désormais environ 50 dollars américains dans les monnaies respectives des États concernés. Certains pays comme le Ghana ou le Nigeria font payer des sommes pouvant atteindre 150 dollars, ce qui décourage de nombreux voyageurs qui doivent multiplier les tests au départ et à l'arrivée. Pour terminer, en Tunisie, le produit intérieur brut a reculé de 8,2% en 2020, mais pourrait croître de 3,8% cette année selon le FMI. Pour parvenir à une croissance durable et inclusive, le FMI encourage Tunis à mettre sur pied un plan de réforme et à renforcer la protection sociale avec une priorité sur la santé.
À présent, la page des sports avec Yacouba Ouédraogo.
Bonsoir à tous. Direction le Cameroun où se joue ce soir la troisième et dernière journée de la phase de groupe dans la poule B. Nous parlons bien sûr du championnat d'Afrique des Nations CHAN. Deux rencontres simultanées présentement. Le Congo-Brazzaville, un point, affronte la Libye qui en compte deux et la RDC, quatre points, joue le Niger qui compte deux points. Hier, le Cameroun et le Mali se sont qualifiés pour les quarts de finale. Les Lions indomptables avaient besoin d'un match nul pour arracher leur ticket et c'est ce qu'ils ont obtenu face aux étalons. 0-0 suffit selon le coach camerounais Martin Tungo Mpili.
Je pense qu'entre se qualifier et jouer un très bon jeu sans se qualifier, je prendrai la qualification.
Martin Tungo Mpili, sélectionneur des Lions indomptables locaux, en face, les Burkinabés regrettent surtout les occasions manquées en seconde période.
Nous avons été très offensifs. On pouvait marquer 4-5 personnes de plus égale. Mais malheureusement, on n'a pas été réaliste et on nous sommes éliminés.
Seydou Zerbo Kroll, sélectionneur du Burkina. De leur côté, les Aigles maliens ont battu le Zimbabwe 1-0, suffisant pour voir les cas, avec en bonus la tête du groupe A avec 7 points, devant le Cameroun 5 points.
On avait la maîtrise technique, on est parvenu aussi à se créer énormément d'occasions de but sur ce match-là. Et dommage qu'on n'a pas pu marquer encore plus, mais le plus important c'était d'avoir les 3 points.
Noun Diané, sélectionneur du Mali. Les Maliens finissent premier devant le pays hôte, le Cameroun, qui est qualifié pour les cas, mais qui n'a toujours pas convaincu ses supporters. Écoutons certains d'entre eux.
Bien sûr qu'on est qualifié, mais ce n'est pas ça qu'on attend de Lyon. On veut voir le bon jeu au terrain, on ne veut pas être... Parce qu'avec ça, on n'est pas sûr si on va aller quelque part. Mais avec ça, le nul, on n'a pas une assurance, donc moi je ne suis pas fier.
Pour moi, ils se sont débrouillés aujourd'hui. Nous attendons encore plus d'eux, parce que c'est dans le pays.
Oui, j'ai trouvé tellement bien, parce que les Lyons se sont battus à leur niveau et j'ai trouvé un engagement extrême, chose donc que j'ai encouragé. Donc, je souhaite qu'on gagne la finale.
Mais sauf que vous vous qualifiez avec deux nuls.
Non, c'est pas grave. Seule la fin justifie les moyens.
Des propos recueillis par Emmanuel Jules Ntap, notre correspondant à Yaoundé. En Europe, l'entraîneur de Chelsea, Frank Lampard, a été limogé après une série de mauvais résultats, a annoncé le club londonien un an et demi après l'arrivée du manager anglais sur le banc des Blues. Chelsea est actuellement 9e du classement à 11 points du leader Manchester United. Ici, aux États-Unis, Chief et Buccaneers sera l'affiche alléchante du 55e Super Bowl. Entendez la finale du championnat du football américain. Kansas City a écarté Buffalo 38-24 et défendra son titre contre Tampa Bay qui s'est imposé à Green Bay 31-26 plus tôt et jouera donc cette finale à la maison le 7 février en Floride.
Merci à Cuba.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique. John Lydon, toujours en votre compagnie. À présent, les dossiers du jour. Et on commence par le Bénin. À moins de 3 mois de la présidentielle du 11 avril, l'opposition semble plus que divisée. La possibilité d'une candidature unique pour contrer le camp du président Patrice Talon semble désormais impossible, selon certains acteurs de l'opposition qui dénoncent des combats de personnes qui ont aidé à fragiliser toutes les stratégies mises en place. Que faut-il attendre de l'opposition béninoise pour la présidentielle qui s'annonce? La réponse dans ce reportage de Ginette Fleur à Dandé, notre correspondante à Cotonou.
Lorsque Patrice Talon prenait la tête du Bénin en tant que président de la République, le pays comptait une flopée de partis politiques se réclamant de l'opposition engagée pour l'animation de la vie politique. Mais les dissensions internes ont eu raison des plus grands. L'un des exemples les plus visibles en la matière est le parti de l'ex-président Nicéphore Soglo qui a explosé malgré sa détermination à le maintenir debout.
Je suis déçu par certains d'entre eux parce que là, c'est un manque total de respect. Un manque total de considération, un manque total aux règles qui régissent toute société familiale. C'est une honte.
Et que dire du parti de son successeur, le président Yahya Boni? Le parti a explosé sous le coup des luttes internes. Même le leader charismatique du parti n'a pu rien faire pour arrêter la saignée. L'actuel secrétaire général du parti, Paul Rompé, a tout fait de minimiser l'étendue des dégâts.
Il n'existe qu'un seul parti FCBE aux yeux de l'État aujourd'hui. Je crois que le reste, c'est des soubresauts, des gens qui pensent qu'on peut utiliser d'autres moyens pour dégager le pouvoir, mais nous on pense que c'est pas la voie démocratique.
Après l'éclatement de ces deux grands partis politiques, l'opposition a vu venir le danger et a décidé de prendre ses responsabilités. Le mouvement de la résistance a vu le jour et réunit plusieurs partis de l'opposition. Leur rôle, travailler à l'alternance au sommet de l'État en 2021. Mais très tôt, des malaises se sont révélés, poussant certains partis à se retirer du mouvement. Théophile Yarou des FCBE explique ici les raisons qui ont précipité l'éclatement de ce mouvement.
Depuis que nous avons mis en place la résistance, aucun mouvement coordonné n'a été organisé par cette résistance. Cette résistance s'est cantonnée dans des discours stériles. 3 ans d'opposition, 3 ans d'une organisation qui veut vraiment atteindre un objectif, ça suffit déjà pour faire une évaluation à mi-parcours.
Eugène Azatassou, ancien porte-parole du même parti, n'est pas de cet avis. Pour lui, le fait que la résistance soit un rassemblement de partis politiques suffit pour créer des divisions, mais pas au point de tout faire voler en éclats.
Nous sommes unis par le fait que la façon dont le pays est géré ne nous convient pas. Chacun est arrivé à cet objectif-là de changer la gouvernance à la tête de notre pays par des chemins divers. Cela ne signifie pas du tout que l'on n'a pas cet objectif en commun.
Mais tout comme les grands rassemblements avant celui-ci, le mouvement de la résistance s'est vidé de plusieurs partis qui ne se retrouvent plus dans le combat qui est mené. Au nombre des partis qui se sont retirés, il y a le mouvement populaire de libération MPL. Espérance TB, le secrétaire général et porte-parole du parti, pense que le mouvement a été piraté par des luttes individuelles.
Ceux qui sont sur la scène depuis des décennies et on les recycle. C'est les mêmes, ils tournent, c'est les mêmes, ils reviennent nous dire autre chose. On va arrêter ce cycle-là. Aujourd'hui, nous sommes arrivés à des certitudes que on ne peut pas, dans le désordre, avancer.
Pour le président du parti MPL, Sabiko Ogoné, bon nombre de ceux qui se disent opposants traînent assez de sales dossiers et n'ont aucune force devant le président actuel. Faire front avec ceux-là est une façon de se tuer politiquement.
Tout le temps, ils ont été entretenus par celui qui est au pouvoir aujourd'hui. Il les connaît, il les maîtrise,
et ils ne peuvent rien contre lui. La seule couche de la société qui fait peur au régime actuel s'appelle la jeunesse, s'appelle les femmes.
Mais pour ceux qui restent encore membres du mouvement de la résistance, le combat reste entier et sera mené comme il le faut. De Cotonou, Ginette Fleur-Adonné pour VOA Afrique.
Au Nigeria, le vice-président Yemi Osinbajo annonce plus d'engagement du gouvernement en faveur de la jeunesse. Les jeunes de moins de 25 ans constituent 63% de la population du pays, estimée à environ 214 millions d'habitants en 2020. Comment la jeunesse nigériane apprécie-t-elle les actions du gouvernement en sa faveur? Élément de réponse dans ce reportage de Gilbert Tamba à Abuja.
Avec plus de 200 millions d'habitants en 2020, le Nigeria est le pays le plus peuplé d'Afrique et l'un des 10 pays les plus peuplés au monde. Sa population devrait doubler d'ici 2050. Cette forte croissance démographique pose de nombreux défis à ces pays en développement. L'un de ces défis majeurs est le développement de sa jeunesse, estimé à 63% de la population. Les données du Bureau national des statistiques révèlent que le taux de chômage au deuxième trimestre de 2020 était de 27,1%, ce qui indique qu'environ 21,7 millions de Nigériens sont sans emploi. En 2020 également, le taux de chômage des jeunes Nigériens était estimé à 14,2% selon l'Organisation internationale du travail. Beaucoup de jeunes n'oublient pas les promesses de campagne du président Muhammadu Buhari. Mokhtar Modibo est l'un d'eux.
Je sais qu'avant l'arrivée au pouvoir de ce gouvernement, il y avait beaucoup de promesses de campagne qu'ils ont promis d'être inclusifs, qu'ils vont inclure les jeunes et entreprendre beaucoup de projets, notamment l'épanouissement des jeunes, entre autres. Mais la question que l'on se pose est de savoir s'il existe une feuille de route pour respecter cet engagement.
Le ministère fédéral de la jeunesse et du développement du sport a lancé en octobre dernier un fonds d'investissement de 75 millions de Naira, soit un peu plus de 160 millions d'euros pour la jeunesse, approuvé par le gouvernement fédéral. Le fonds devrait servir de catalyseur pour libérer le potentiel des jeunes et permettre à certains de créer des entreprises qui augmenteront le taux d'emploi. Souki Odabi est un avocat et activiste qui se bat pour la jeunesse nigériane.
Oui, le gouvernement essaie d'initier certains programmes pour accompagner et encourager les jeunes, mais à cause des problèmes de système et d'organisation, il manque encore l'impact et les résultats qu'on s'attendait. Par exemple, nous savons les services humanitaires en cours, mais il y a là aussi assez de plaintes.
Des journées de débat et de réflexion autour des questions de soutien de la jeunesse sont souvent organisées par la société civile et même les autorités fédérales avec les représentants des jeunes.
Nous devons avoir une initiative commune. Quelle est cette vision qui nous rassemble tous? Quelles sont ces idées dont nous les jeunes disposons et qui nous rassemblent autour de cette table pour parler d'inclusion, de justice et d'équité? En faisant cela, il y a des limites que nous devons prendre en considération.
Les manifestations des jeunes l'année dernière contre les brutalités policières étaient l'expression du mécontentement de la jeunesse nigériane contre la mauvaise gouvernance. Gilbert Tamba Abuja, VOA Afrique.
VOA Afrique, à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Alors que Joe Biden entame sa première semaine à la Maison-Blanche, il fait face à de nombreux défis, dont l'intensification de l'effort national de vaccination contre le coronavirus et le procès de son prédécesseur Donald Trump qui va s'ouvrir le mois prochain au Sénat. Michel Kahn de la VOA fait le point. Le récit est de Lionel Gaïma.
Ce lundi, l'article de mise en accusation de l'ancien président Donald Trump sera transmis de la Chambre des représentants, qu'il a inculpé, au Sénat où doit se tenir le procès. Les sénateurs qui feront office des jurés vont prêter serment demain mardi. Le procès en soi ne va commencer que le 9 février. Donald Trump sera le premier président américain à avoir été mis en accusation deux fois. Il va devenir aussi le premier à subir un procès après avoir quitté ses fonctions. Des profondes divisions subsistent dans le pays sur ce que Trump a dit avant l'attaque du Capitole et sur les élections dont Trump dit qu'on lui a volé sa victoire. Son équipe de campagne et ses alliés ont déposé des dizaines de plaintes devant la justice, mais n'en ont remporté aucune. Le sénateur républicain Rand Paul du Kentucky a plaidé pour plus d'enquêtes sur le vote.
Je pense qu'il y a eu beaucoup de preuves de fraude et de modifications illégales des lois électorales et je pense qu'une enquête approfondie est justifiée.
Le procès de Donald Trump intervient à un moment où la nouvelle administration Biden doit travailler de concert avec le Congrès pour faire avancer les choses. N'est-ce pas un peu trop tôt au milieu d'une pandémie à Washington? Amy Klobuchar est une sénatrice démocrate du Minnesota.
Je crois fermement que nous pouvons gérer ce procès et comme le fait le peuple américain, jongler avec ce que nous avons à faire.
Le principal défi auquel le pays fait face est d'intensifier la vaccination contre le coronavirus. Joe Biden a promis 100 millions de doses au cours de ses 100 premiers jours au pouvoir. Pour certains, c'est trop peu et trop lent. Le docteur Vivek Murthy est le candidat choisi par Biden pour diriger le ministère de la Santé.
C'est un point de départ, ce n'est pas un plafond. C'est un objectif qui reflète les réalités de ce à quoi nous sommes confrontés, de ce qui pourrait aller bien, mais aussi de ce qui pourrait mal tourner.
Les États-Unis ont dépassé 25 millions de cas de COVID-19 et plus de 418 000 décès selon l'université Johns Hopkins. La semaine dernière, Biden a signé des décrets concernant la gestion de la pandémie. L'un de ces décrets impose le port de masque facial dans les bâtiments fédéraux, les bus et les trains interurbains, ainsi que les aéroports et les avions pour ralentir la propagation du COVID-19.
Et c'est la fin de ce journal à la mise à nom de Lionel Gaïma, Michel Joseph, Georges Léonard Sagnot et Joselle Morissin. À la présentation, John Linden, édition en chef, Idriss Fall. On reste en contact sur Facebook et rendez-vous également sur notre site internet voafrique.com pour l'actualité 24 heures sur 24. Au revoir.
Ici Washington, la voix de l'Amérique. Voici un éditorial reflétant le point de vue du gouvernement des États-Unis.
Les États-Unis demandent des comptes aux juges et aux procureurs vénézuéliens qui ont pris part au procès de novembre 2020 et à la condamnation de 6 dirigeants de la compagnie pétrolière Citgo basée à Houston. Connus sous le nom des six de Citgo, Temeu Vadel, Gustavo Cardenas, Jorge Toledo, Alerio José Zambrano, José Luis Zambrano et José Angel Pereira ont été condamnés à des peines allant de 8 à 13 ans de prison. En 2017, les six de Citgo ont pris part à une réunion d'affaires de dernière minute à Caracas, la capitale du Venezuela. Un peu de temps après leur arrivée, des agents de sécurité masqués ont fait une descente dans la salle de conférence, ont arrêté les hommes et les ont jetés dans la célèbre prison de l'Hélicoïde. Ces Américains, a déclaré le secrétaire d'État Mike Pompeo dans un communiqué, sont injustement emprisonnés au Venezuela depuis novembre 2017, après avoir été attirés à Caracas sous des faux prétextes. En août, les procès des six hommes ont finalement commencé, après qu'ils ont été détenus pendant près de 1000 jours. Deux responsables du régime illégitime de Maduro, la juge Lorena Carolina Cornell Ruiz et le procureur Ramon Antonio Torres Espinoza, ont joué un rôle essentiel dans les procès bidons de chacun des dirigeants de Citgo. Les procédures n'avaient aucune garantie d'équité et étaient fondées sur des accusations politiquement motivées. Le procès n'était pas public, comme le garantit la Constitution vénézuélienne, et les médias et les groupes de défense des droits de l'homme se sont vus refuser l'accès. La détention et la condamnation injustifiée de ces six citoyens américains démontrent en outre à quel point la corruption et les abus de pouvoir sont profondément ancrés dans les institutions du Venezuela, a déclaré le secrétaire au Trésor Steven Mnuchin. Les États-Unis restent déterminés à protéger leurs citoyens et à cibler ceux qui contribuent à l'usurpation du pouvoir par le régime illégitime de Maduro au Venezuela. Ces six hommes et leurs familles ont assez souffert, a déclaré le secrétaire Pompeo. Il est temps pour Maduro de libérer les six de Sitsgo et de les laisser retrouver leur famille.
C'était un éditorial reflétant le point de vue du gouvernement des États-Unis. Washington, la voix de l'Amérique.